en toute liberté.
Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre émission En toute liberté. En toute liberté, c'est votre tribune qui donne la parole aux acteurs politiques, mais aussi aux acteurs de la société civile. Objectif, faire bouger les lignes et faire vivre notre jeune démocratie. À Djoliba TV News, nous ferons le serment de faire la télé en libéralisant la parole publique, mais aussi d'œuvrer au quotidien pour une information plurielle au service des citoyens et de la démocratie. Mesdames, Messieurs, notre invité est un chèque, ancien candidat à la présidentielle malienne. Il est très averti sur les questions de laïcité, les questions de démocratie aussi. On va lui donner la parole ce soir, vous l'aurez compris, notre invité Youssouf Hassan Diallo. Mam, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de répondre à notre invitation.
Moi qui vous remercie.
Nous sommes au mois de Ramadan, mois béni de Ramadan. Est-ce que vous pouvez revenir pour les téléspectateurs sur le sens du Ramadan, le rappel, pourquoi le Ramadan, et puis aussi l'importance du Ramadan pour le musulman.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je voudrais tout d'abord saisir cette occasion que nous offre l'avènement du mois béni de Ramadan pour féliciter l'ensemble de la Oumma islamique et en particulier la communauté musulmane de notre pays et implorer Allah le Très-Haut pour que ce mois de lumière et de bénédiction puisse profiter à tous et à toutes. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Le mois de Ramadan, c'est le mois anniversaire de la révélation coranique, c'est ce qui fait son importance. C'est l'importance du Coran, ce sont les lumières et les bénédictions du Coran qui ont donné au mois de Ramadan toute son importance. En effet, le Coran a été doublement révélé au mois de Ramadan. Une première révélation a eu lieu pendant la nuit de Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Cette révélation s'est opérée du ciel supérieur où se trouve la parole incréée de Dieu vers le ciel inférieur. Ça, c'est si nous parlons théologie. Le ciel inférieur, et ça s'est passé d'un seul trait, une seule nuit, la nuit de Laylat al-Qadr, qui est une nuit extrêmement importante, au point que le Coran lui-même a dit qu'elle équivaut à 1000 mois selon notre décompte, 1000 mois. Une seule nuit qui équivaut à 1000 mois. Si vous accomplissez une bonne œuvre au cours de cette nuit, c'est comme si, sans arrêt, vous avez accompli cette même œuvre pendant 1000 mois successivement. Ça, c'est la première forme de révélation coranique. La deuxième forme de révélation coranique a eu lieu du ciel inférieur. C'est l'ange Jibril, l'ange de la révélation, donc qui s'est chargé de transmettre le Coran à partir du ciel inférieur jusqu'au cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 années, par intermittence. Donc, le mois de Ramadan est par excellence le mois du Coran. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, avait l'habitude de lire le Coran chaque mois de Ramadan, de passer en revue le Coran qui a été révélé avec l'ange Jibril, l'ange de la révélation, chaque année. Et l'année de son décès, l'ange lui a fait passer en revue le Coran par 2 fois. Et il avait compris donc que c'était son testament, que c'était sa dernière année, alayhi salatu wasalam. Donc il nous a demandé de mettre à profit, nous les croyants et les croyantes, de la Oumma islamique, mettre à profit ce mois béni pour nous rapprocher davantage de Dieu, pour renforcer notre piété, parce que c'est le motif justement du jeûne, c'est renforcer notre piété, c'est le verset qu'il a dit. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattakun, la'allakum tattakun. Donc nous vous avons révélé, c'est Dieu qui parle, nous vous avons prescrit de jeûner le mois de Ramadan, comme nous l'avons prescrit aux communautés croyantes qui vous ont précédé, afin que vous puissiez renforcer votre piété, votre crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Ok. Oui, le Ramadan, c'est un bon rappel pour le musulman. Et l'attitude du musulman pendant ce mois de Ramadan, est-ce que c'est cette même attitude qu'il doit? Parce qu'on a remarqué souvent, certains, pendant le mois de Ramadan, les mosquées sont remplies, mais juste après, les mosquées se vident. Est-ce que à ce moment-là, on peut dire que le message, le rappel pour le Ramadan est bien compris?
Effectivement, il y a des gens qui ont une de telles pratiques, mais il faut dire tout de suite que l'islam, ce n'est pas un islam du Ramadan. Le musulman, il est appelé à vivre l'islam à tout instant, en tout lieu et en tout temps. Ce n'est pas seulement au mois de Ramadan. En effet, le Coran a dit « Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin » Dieu dit à son prophète de dire, de proclamer à travers le prophète tous les croyants, de dire que très certainement, ma prière, ma dévotion, ma vie et ma mort, tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire le musulman, le croyant doit vivre avec Dieu, en communion avec Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps. C'est vrai que le mois de Ramadan est un mois béni, un mois exceptionnel, où les œuvres sont multipliées, ou quintuplées, ou centuplées même, les bonnes actions. Mais il est important de comprendre que, en dehors du mois de Ramadan également, il est demandé d'observer, de savoir, d'être sûr que l'œil de Dieu est braqué sur vous. Donc le comportement, le bon comportement doit se poursuivre. Le Ramadan est une école qui nous permet justement de vivre en bonne intelligence avec notre foi pendant le reste de l'année.
Okay. Oui, parlons maintenant de projet de nouvelle constitution du Mali. Et on parle de laïcité, la question passionne et divise les Maliens. Pour vous, c'est quoi la laïcité? Ils sont nombreux qui parlent de laïcité. Et vous êtes, je le disais en introduction, un expert. Vous connaissez la théologie, vous avez fait des grandes études, diplôme universitaire en langue arabe, études islamiques. Donc, vous avez aussi un master en sciences politiques, études internationales et européennes, baccalauréat série philo-langue, lycée franco-arabe de Tombouctou. Donc, vous avez de l'expertise. Pour vous, c'est quoi la laïcité?
Eh bien, la laïcité, depuis toujours, depuis l'enseignement fondamental, dans nos pays francophones en particulier, c'est pas seulement au Mali, on a toujours pensé que la laïcité, c'est tout simplement cette disposition dans nos constitutions qui nous permet d'assurer la liberté du culte et la liberté de conscience. C'est ce que tout le monde a pensé. Mais en fouillant un tout petit peu, on se rend compte que non, c'est une duperie. Ce n'est pas du tout ça, la laïcité. La laïcité n'a aucune préoccupation par rapport à la liberté du culte. La laïcité vise une chose, c'est éloigner l'être humain du divin, dans sa gouvernance. Éloigner l'être humain, la gouvernance de l'être humain, de toute considération divine. Et j'ai pour preuve les sentinelles que la laïcité est venue mettre au portail de nos écoles et de nos universités, en interdisant que lorsque Dieu soit enseigné dans nos écoles. Là-bas, c'est la laïcité qui est là-bas. N'est-ce pas? Parce que si vous regardez la Constitution, vous allez voir que là, la laïcité est citée nommément.
Oui.
La laïcité est citée nommément, on vous dit, l'enseignement est laïque.
Oui.
On n'a pas dit que c'est l'État qui ne veut pas, on n'a pas dit que c'est X ou Y qui ne veut pas que Dieu soit enseigné à l'école, mais on a bien précisé que c'est la laïcité qui ne veut pas que Dieu soit enseigné à nos enfants, dans nos écoles publiques, que nous finançons à travers nos contribuables musulmans. Donc, la préoccupation de la laïcité, c'est construire à l'école, une école éloignée de Dieu, construire un citoyen sans Dieu. Il est important qu'on s'entende là-dessus. Donc, la laïcité, sa définition, sa vraie définition, et c'est ce que ses fondateurs, les pères fondateurs, notamment ceux qu'on appelle les philosophes des Lumières. Et j'ai eu à dire que ces philosophes ne sont pas du tout des philosophes des Lumières. On nous a enseigné qu'ils sont venus nous apprendre les Lumières parce que, tout simplement, ils veulent qu'on se réfère à la raison. Oui, on se réfère à la raison. La raison permet de tout comprendre, sauf évidemment ce qui relève du réel supérieur.
Okay.
Mais la raison n'est pas tout. La raison nous aide.
Oui.
Et la science, la connaissance, ce n'est pas seulement, contrairement à ce qu'ils disent, ce que la raison appréhende. La connaissance va au-delà de la raison. La révélation, par exemple, nous permet d'atteindre des sommets en matière de science et de connaissance.
Okay.
Donc, entendons-nous là-dessus, la laïcité, c'est écarter, éloigner, évacuer le divin de notre gouvernance politique, économique, sociale, éducative, etc. C'est ça la laïcité. C'est la raison pour laquelle...
C'est votre définition de la laïcité ou bien vous pensez que c'est ça la laïcité?
Non, ce n'est pas ma définition. Oui. C'est, ça, c'est la réalité de la laïcité. Okay. C'est comme ça que la laïcité fonctionne. Mmh. C'est cela son objectif. Okay. Vous ne trouverez nulle part dans une définition qu'on vous dise que la laïcité veut dire la liberté du culte. C'est la raison pour laquelle il y a des pays, n'est-ce pas, qui ne sont pas laïcs et qui assurent, qui garantissent la liberté du culte. La plus vieille démocratie sur la planète, c'est quel pays? C'est le Royaume-Uni de Grande-Bretagne aujourd'hui. C'est un pays qui n'est pas laïque, qui a une religion d'État, qui est l'Église anglicane, dont la reine d'Angleterre et aujourd'hui le roi Charles III est le patron, le protecteur et le premier garant. Bien que l'Église anglicane ou l'anglicanisme n'est pas la religion de tous les Britanniques. C'est une religion, c'est une religion majorité, il est vrai, mais il y a les musulmans, il y a les bouddhistes, il y a tout le monde. Mais l'Angleterre a choisi, depuis sa création, que l'Église anglicane soit la religion officielle du pays, et pourtant les libertés sont garanties. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, dans cette semaine-là, l'Écosse, qui fait partie de la Grande-Bretagne, vient d'élire un premier ministre, un premier ministre musulman, de surcroît. C'est Hamza Youssouf, qui est un pratiquant, qui... aucun problème, ça c'est quelque chose d'impensable en France. Okay. Vous connaissez le fameux roman de Michel Houellebecq, okay, qui a parlé de soumission, yeah, avec le brûlot qu'il a fait contre l'islam et les musulmans en France, pour dire que un musulman qui va être élu, etc. Bref, c'est pour dire tout simplement que nous avons des problèmes, nous les pays francophones, avec cette laïcité qui est une exception française. Okay. Et nous devons, nous, en tant que pays musulman à 98%, nous devons réfléchir, nous devons mener un débat pour évacuer à jamais, pour nous affranchir à jamais de la laïcité.
Maintenant, si on s'affranchit de la laïcité, quelle alternative, par exemple? Parce qu'on sait qu'au Mali, ce n'est pas seulement l'islam, il y a d'autres religions, par exemple, des gens qui ne croient pratiquement à aucune religion. Il y a des animistes aussi. Comment on pourra faire l'équilibre, le bon mélange?
Ce qu'on va faire, c'est quoi? Lorsque on est dans une logique majorisante, lorsqu'on fait des élections présidentielles, par exemple, il y a des candidats. Il y a un candidat qui gagne les élections à 50%, à 52% ou 53%. Il est élu président. Mais est-ce qu'il n'est pas le président de tous les autres? Est-ce que les autres qui ne l'ont pas élu sont écartés? C'est la même chose. On fait comme la Grande-Bretagne. Ça, c'est la recette qui est là devant nous. Okay. On fait comme la Grande-Bretagne. Nous choisissons notre religion majoritaire qui a 98, 95, 97, 18% de musulmans. Nous adoptons, comme ça a été le cas de l'Empire Songhai, de l'Empire du Mali au temps d'Eskia, de l'Empire tout couleur, de l'Empire du Ghana, etc. Nous revenons à ce que nous étions avant la colonisation, au statu quo ante, si on peut l'appeler ainsi. Nous adoptons l'islam comme religion d'État. Et nous inscrivons dans notre constitution des dispositions qui garantissent, ou l'État, notre État, à nous, et non la laïcité, qui va garantir la liberté de culte pleine et entière à tous les autres citoyens. Okay.
Donc vous préconisez un État islamique, par exemple?
Un État
avec une religion...
Un État avec l'islam, religion d'État. Okay. Maintenant, l'organisation de cet État, nous sommes des Maliens, nous avons notre génie, nous pouvons nous retrouver pour nous organiser, pour nous entendre sur un contrat social à travers lequel nous allons pouvoir gérer notre pays. D'accord. En nous appuyant sur Dieu, subhanahu wa ta'ala. Parce que avec les défis du 21e siècle, nous avons fait 60 ans en train de tourner en rond. Okay. Nous ne sommes même pas à la case départ, nous sommes aujourd'hui dans le fossé, parce que nous n'avons pas d'option idéologique, nous ne savons pas où aller, nous ne savons pas à quel sens se vouer. Okay. Aujourd'hui, il est temps que nous retrouvions notre force. Notre force, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons être dans le camp de Dieu pour affronter les défis du siècle.
L'État est laïque, mais ceux qui sont musulmans, chacun pratique sa religion, chacun pratique l'islam comme il l'entend. Est-ce qu'à ce niveau, il y a un problème où vous voulez clairement l'institutionnaliser? C'est ça votre conviction?
Le problème qu'il y a, c'est quoi? Je vous ai déjà donné l'explication, parce que vous revenez à la laïcité. Oui. Je vous ai déjà dit que la laïcité, c'est Et là, je vais le repréciser. Okay. La laïcité, c'est le levier politique d'une idéologie. Une idéologie athée, une idéologie anti-divine, qui est le courant philosophique humaniste. Ce sont ces gens-là qui ont pris le pouvoir en France. Et ce sont ces gens-là qui ont codifié, canonisé la pratique, la mise en œuvre de la laïcité jusqu'à sa dernière version, qui est la version de 1905. Et c'est ce pays qui nous a colonisés. Quand il nous a colonisés, il nous a appliqué son système politique, son mode de gouvernance, alors que nous n'avons pas les mêmes réalités ni sociales ni historiques. Les conditions dans lesquelles la laïcité est née en France, mm-hmm. avec la monarchie qui a été renversée par la révolution de 1789, la monarchie qui avait pour complice le clergé corrompu, et donc qui a été balayé avec la révolution, nous, en terre d'islam, nous n'avons pas ce même problème avec la religion. Chez nous, c'est les religieux, disons, ce sont les savants. Si vous prenez l'histoire de l'islam, vous trouverez que le savant, l'astronome ou le mathématicien ou le géographe ou le philosophe, il est en même temps le jurisconsulte. Vous prenez quelqu'un comme Al-Khawarizmi. Aujourd'hui, c'est lui qui a le développement prodigieux de la technologie aujourd'hui, de l'information, est parti de ce qu'on appelle les algorithmes. Les algorithmes, c'est quoi? C'est Al-Khawarizmi qui les a inventés. Et d'ailleurs, c'est son nom qui a été latinisé de Al-Khawarizmi qui est devenu algorithme que nous avons aujourd'hui. Si vous prenez Jabir al-Hayyan, c'est lui qui a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui les chiffres arabes. Les Français les appellent les chiffres arabes, les chiffres que nous utilisons. C'est eux qui les ont inventés. Si nous hasardons aujourd'hui, l'humanité se hasarde aujourd'hui à écarter ces chiffres, ces 10 chiffres arabes, de 0 à 9, de la connaissance humaine ou de l'héritage de l'humanité, nous allons retourner à l'âge de la pierre taillée. Donc, chez nous, il n'y a pas de Copernic et de Galilée qu'on va torturer parce qu'ils disent que la Terre tourne, ou bien que la Terre tourne autour du Soleil. On n'a jamais eu ce problème de conflit entre la religion et la science. L'islam et la science vont de pair. La foi et la raison vont de pair en islam. Okay. Donc, ce problème, on ne l'a jamais connu.
Oui.
Raison pour laquelle,
oui.
Si nous revenons à la question de la laïcité, le problème, ce n'est pas qu'on est laïque, chacun fait sa religion. Non, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est que je vous l'ai déjà dit,
oui.
La laïcité est partie planter des sentinelles devant nos écoles et nos universités pour dire qu'on ne doit pas enseigner Dieu dans nos écoles. C'est ça le vrai problème.
Vous n'avez pas appris Dieu quand vous étiez
au lycée de Tombouctou.
Au lycée de Tombouctou, au lycée franco-arabe, non ?
Si
non, dans le programme.
Si je vous parle de mon expérience au lycée de Tombouctou, mais vous serez ahuri. C'est un petit lycée qui a été créé à la demande de feu Mohamed Alassane Haïdara, qui a demandé certainement à Modibo Keïta, Tombouctou étant la ville sainte du Mali, qu'on ait un lycée où on enseigne l'arabe. Le premier proviseur, c'était un chrétien arabe libanais. Il s'appelle Adib Bachour. Nous, nous sommes venus, peut-être nous sommes la cinquième ou la sixième génération, promotion. Quand nous sommes arrivés, je vous dis, un petit lycée de Tombouctou, avec, je sais, quelques centaines d'élèves, les 80% des élèves, les 80% du corps enseignant étaient des expatriés français. Je peux vous laisser, je mémorise encore leurs noms. 80%.
Vous avez gardé des bons souvenirs de ces professeurs-là.
Non, les professeurs m'ont enseigné,
oui.
Mais les professeurs sont venus pour autre chose. Avec le recul, j'ai compris pourquoi ils étaient si nombreux dans ce lycée. Mmh. C'est pour l'empêcher d'être un lycée islamique. Et il ne l'a pas été. Le problème, ce n'est pas d'avoir un lycée franco-arabe. La preuve, le proviseur était arabe, mais il était chrétien. Mais ce qui était demandé, c'est d'avoir un lycée qui nous enseigne l'islam, qui est notre identité culturelle. Ça n'a pas été le cas.
Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles vous avez cherché à connaître plus votre religion, jusqu'à savoir aujourd'hui que la laïcité est une des pays, comme vous l'avez
dit. J'ai été obligé de sortir de notre système éducatif laïque pour avoir les informations dont je dispose aujourd'hui sur la laïcité.
Okay.
Et j'ai compris, j'ai eu beaucoup d'autres informations avec le recul, j'ai compris que Tombouctou et Djenné, qui sont les hauts lieux de la culture islamique,
oui.
sont deux villes qui sont sous un embargo culturel qui ne dit pas son nom. Et je vais vous donner les preuves.
Okay, allez-y.
Aujourd'hui, vous pouvez faire une petite enquête sur Tombouctou.
Oui.
Depuis l'indépendance, avant l'indépendance, parce que
comment on appelle ça, cet embargo culturel date de la colonisation déjà. Et ça s'est poursuivi après les indépendances. Si vous faites une enquête, vous verrez que en un siècle à peu près, parce que nous avons 60 ans d'indépendance, si vous ajoutez 40 ans de colonisation, il n'y a pas eu un ressortissant de Tombouctou qui soit parti dans les pays arabes pour étudier la théologie, devenir docteur et revenir. Ça n'existe jusqu'à présent, ça n'existe pas. Alors que ça pullule au sud, à Bamako, à Ségou, à Kaye et autres, où il n'y a pas cet embargo. Ça doit interroger les uns et les autres. Et je vous dis une autre information pour le cas de Djenné. Djenné, aujourd'hui, est presque effacé de la carte culturelle du Mali. Il n'y a presque pas d'institution islamique ou de savants ou de lettrés musulmans ou de théologiens pour Djenné. Ça veut dire qu'il y a un travail systématique qui a été fait pour nous déculturer. Ça, c'est au passage une information que je vous donne. Okay. Donc, tout ça, c'est venu d'où ? C'est venu de la laïcité. C'est le système éducatif laïque anti-Dieu, qui combat justement, parce que le combat qu'il faut mener, c'est contre l'islam. Okay. Ici, dans le cas du Mali, ce n'est pas le cas de la France.
Donc, ceux qui disent, les musulmans qui disent être contre la laïcité, vous les soutenez, vous partagez leur combat. Excusez-moi. Vous les soutenez.
Ce n'est pas seulement que je les soutiens, mais ça, c'est mon combat à moi d'abord.
Okay, okay.
Pour moi, on nous a mis en conflit avec Dieu à travers le système de la laïcité. Et nous avons récolté les conséquences, les dégâts de la laïcité dans notre gouvernance, les dégâts que la laïcité a causés au Mali, sont presque aussi considérables que les dégâts causés à la France.
Ok.
Voyez-vous ?
Oui.
Donc, je n'ai pas besoin de vous dire, quand vous avez un État qui fabrique de l'alcool et qui le vend à ses enfants, un État qui fabrique l'alcool et qui le vend, un État qui fabrique la cigarette et qui la vend à ses propres enfants, un État qui importe 30 milliards pour 30 milliards de francs CFA, des liqueurs de tous les pays de la planète, pour venir enivrer ses propres enfants. C'est un tel État laïque. Il ne s'agit pas de dire « tu me permets seulement d'aller dans la mosquée faire ma prière ». Non, je veux que dans ma société, la population de mon pays, la jeunesse de mon pays, les enfants de mon pays soient mis à l'abri des méfaits justement d'une telle gouvernance.
Okay.
Ce n'est pas seulement me permettre d'aller à la mosquée ou d'aller. Et puis quand vous n'avez pas l'éducation, l'islam, l'éducation islamique, c'est une science, c'est une connaissance qui se transmet de génération en génération. Okay. Si on ne la transmet pas à partir de notre école ou de la famille, par quel biais on pourra la transmettre? Donc nous devons réformer notre système éducatif. Ôter, carrément effacer la laïcité dans le système éducatif et permettre à nos enfants d'accéder à la connaissance de Dieu.
Okay.
C'est cela qui pourrait donc les mettre à l'abri des problèmes.
Pour vous, c'est ce qui va sauver les enfants, c'est ce qui va sauver la population.
C'est ce qui va sauver tout le monde. Okay. Nos cadres sont les premières victimes, l'élite intellectuelle qui a allaité à la mamelle de la laïcité, de l'école laïque. Mais c'est eux les premières victimes, les alcooliques et autres, les drogués, c'est eux d'abord. L'immoralité, où est-ce que ça se recrute? Ça se recrute chez les gens qui n'ont pas appris Dieu. Ça, c'est évident. Donc, c'est de tout ça qu'il s'agit. Nous devons véritablement reformer notre société, nous réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala, mettre au centre de notre gouvernance notre identité culturelle. Et l'identité culturelle de la majorité écrasante des Maliens, c'est l'islam. Il ne faut pas avoir honte de parler de l'islam. C'est l'islam qui est notre référence. L'islam doit être protégé, doit être enseigné, doit être transmis à nos prochaines générations.
Okay.
Sinon, nous allons être...
Vous ne craignez pas une guerre des religions, parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui aussi qui ne croient pas à l'islam. Ils sont nombreux des compatriotes maliens qui, pratiquement, ne sont pas musulmans, qui adorent, qui ont un autre Dieu, par exemple. Est-ce que vous ne craignez pas une guerre des religions au Mali ? Même si l'islam, vous le dites, est majoritaire.
Pourquoi il y a une guerre de religion si on ne vous empêche pas vos droits? Si les chrétiens, les non-musulmans qui sont là, je l'ai dit, on doit l'inscrire. L'État, d'abord, doit être garant de leur liberté. Et ça doit être inscrit dans notre constitution. Personne ne doit interférer dans leur pratique religieuse ou dans leur vie de tous les jours. Pourquoi il y aurait une...
Mais quand vous dites qu'il y aura une religion d'État, donc certainement, on suppose que on va appliquer la charia, et si la charia s'applique, du coup, eux, ils sont du coup écartés. Cette charia va s'imposer à eux, même s'ils ne sont pas musulmans.
S'ils ne sont pas musulmans, comment est-ce qu'on va leur imposer la charia? De quelle manière? Ils ont leurs lois, les chrétiens, ils ont leurs lois, les juifs ont leurs lois. S'ils veulent, c'est à eux de demander ce qu'ils veulent qu'on leur applique. Okay. C'est pourquoi j'ai parlé de contrat social. Le chrétien, il n'est pas musulman. Nous, on est musulmans, nous voulons notre charia. Il peut nous empêcher de pratiquer notre charia parce qu'il n'est pas musulman. C'est injuste. Il doit dire, donnez-moi ce que je veux, moi, voilà ce que je veux. Si on le refuse, il peut se plaindre. C'est ça qu'il c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses.
Parlez-nous de la charia. Pourquoi la charia fait autant peur? Est-ce que parce qu'on ne connaît pas, vous avez dit, peut-être qu'on ne connaît pas notre religion suffisamment. Pourquoi la charia, la question de la charia fait autant peur?
La charia fait peur parce que la charia a été diabolisée. Okay. C'est diabolisé par des gens à qui profite le crime. Le crime de la diabolisation de la charia profite à des gens. Ces gens-là, ce sont les gens qui ont mis à la place de la charia leur propre législation. Au Mali, nous avons le droit positif français qui est appliqué sur nous qui sommes musulmans. Les Français veulent, c'est pourquoi j'ai parlé d'hégémonie culturelle et idéologique de la France qui est appliquée à nous. Le crime, et puis, vous pouvez faire la remarque, la diabolisation de la charia et du djihad, la diabolisation de l'islam d'une manière générale. Quand vous fouillez, vous allez trouver que c'est... Ça va de la presse et de la littérature française. En 20 ans, 30 ans, depuis le problème des élections, la crise algérienne, avec le Front islamique du salut et autres, en 90, de 90 à maintenant, nous sommes une trentaine d'années. Donc depuis 30 ans, la France a inventé des terminologies, plusieurs terminologies contre l'islam. Le terrorisme, l'islamisme, le fondamentalisme, l'intégrisme, et ensuite ils ont ajouté le djihadisme. Toutes ces terminologies...
Les salafistes aussi, les salafistes.
Les salafistes, toutes ces terminologies-là, qui sont péjoratives, ont été inventées par la presse française pour diaboliser l'islam. Et chaque fois qu'ils ne réussissent pas, ils inventent une nouvelle terminologie. Et la dernière terminologie à laquelle nous sommes, c'est le djihadisme. Okay. Voyez-vous, alors que le djihad, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour les musulmans. La charia, c'est également c'est le droit islamique. Le droit islamique nous vient de Dieu. On ne peut pas venir de Dieu et être imparfait. On ne peut pas comparer quelque chose qui émane de Dieu à quelque chose qui émane des humains. C'est pas la même chose.
Okay.
Donc, les gens ont peur de la charia pour deux raisons.
Oui.
Premièrement, parce que les gens ne connaissent pas la charia. Nous sommes musulmans dans ce pays, mais notre système éducatif nous a refusé de savoir ce que c'est que la charia. Donc, premièrement, nous ignorons la charia, donc c'est tout à fait normal que si quelqu'un d'autre... L'information que les gens ont de la charia, c'est l'information qui vient de l'ennemi de la charia, qui est, comme je l'ai dit, la littérature et la presse française.
Okay.
La presse française qui nous a imposé son système législatif, qui est le droit positif français, et qui ne veut pas qu'on s'en débarrasse.
Okay.
Donc, ils ont intérêt à ce que la charia soit diabolisée et que... Et n'oublions pas, d'ailleurs, il y a tellement de dispositions que les Français prennent par rapport à cela... pour subventionner, par exemple, l'enseignement du droit. Quand il y a des grèves, les étudiants qui sont en droit, on connaît le traitement de faveur qui leur est accordé par la coopération française. Donc, ils ont intérêt à ce que ce droit positif français soit là indéfiniment, parce que c'est à partir de cela, c'est à travers cela qu'ils nous imposent leur hégémonie, comme je l'ai dit, idéologique et culturelle.
Ok. Maintenant, parlons du Mali. Vous avez été un ancien candidat à la présidentielle en 2002, ancien candidat à la présidentielle. Aujourd'hui, le Mali est en crise. Une grande crise depuis 2012. On peut même dire que le pays a tout le temps été en crise. Aujourd'hui, quel est le diagnostic? Comment on s'est retrouvé dans cette situation? Le diagnostic.
Nous sommes retrouvés dans cette situation, à mon avis, parce que nous avons connu une malgouvernance endémique qui a débuté depuis presque l'indépendance.
Okay.
Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours.
Mmh.
C'est-à-dire, c'est le choix idéologique.
Mmh.
C'est la boussole de notre développement, de notre émergence qui nous a manqué depuis l'indépendance. Le Mali a passé tour à tour par un régime socialiste. Et vous savez que le régime socialiste n'est pas du tout conforme à nos valeurs. C'est la raison pour laquelle, 8 ans après, ce régime s'est effondré, il a échoué. Ce régime a été remplacé par une dictature militaire qui pendant 23 années, également a tenu le pays dans une gestion à vue, c'est-à-dire de l'improvisation. Il n'y a pas de vision, parce qu'il n'y a pas de boussole, il n'y a pas d'option idéologique, qui a également échoué. Ensuite, ce qu'on a appelé le mouvement démocratique a pris la place. Et ce mouvement démocratique, en fait, à mon avis, il n'en était pas un. Ce n'était pas un mouvement démocratique en réalité, c'était juste pour remplacer. Parce que ce mouvement, c'est un mouvement néolibéral, d'abord, qui est venu avec des recettes qui ne nous convenaient pas. Et on a vu la prédation, on a vu la destruction systématique de l'État. La destruction systématique de l'État, qui a conduit également à la destruction de l'armée, de la défense, et qui a abouti au résultat que l'on connaît, c'est-à-dire un pays failli, un État failli, et qui aujourd'hui a fait que nous sommes dans le fossé.
Okay.
Donc nous devons, pour sortir de ce fossé, à mon avis, il y a deux choses à faire. Premièrement, nous devons nous repentir, nous réconcilier avec Dieu, parce qu'on nous a mis dans ce système de gouvernance, dos à dos avec Dieu, en conflit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cela doit être corrigé, et en urgence. Deuxième chose, nous devrions évidemment réformer tout notre système, y compris le système éducatif, parce que le système éducatif a échoué, n'a pas réussi à produire des dirigeants qui ont la compétence, le sens de la responsabilité et l'intégrité nécessaire pour conduire les destinées de notre pays. À l'indépendant, nous étions presque au même niveau que des pays asiatiques, comme Taïwan, comme, je ne sais pas, la Malaisie et autres. Les grands dragons de l'Asie. Aujourd'hui, c'est la Corée. On voit la différence. Ces gens-là sont revenus à leur identité culturelle, à leurs valeurs d'origine, dont je parle justement ici.
Oui.
Quand nous parlons de valeurs au Mali, on est obligé de parler de l'islam, que l'on le veuille ou pas. Ces gens-là, c'est le taoïsme, c'est le bouddhisme, etc. Ils sont revenus à leurs valeurs traditionnelles. Ils ont puisé dans ces valeurs-là pour se développer, pour se hisser au rang des pays qu'on respecte.
Okay.
Donc nous avons besoin de nous réformer idéologiquement, culturellement, pour que nous puissions mettre les gens qu'il faut. Nous devons susciter l'émergence d'une nouvelle race de responsables politiques parmi les hommes et les femmes de ce pays-là. Et ils sont là-bas, ils existent. Il faut les chercher et pour que nous ayons les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Mais cela ne peut pas se faire si nous ne nous adossons pas à Dieu. Ça, j'en suis à 100% persuadé.
Ok. Oui, aujourd'hui, on parle de refondation, hein, on parle de Mali courant, Mali nouveau. Nous assistons aussi à une crise des valeurs, une crise de repères. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi à ce niveau?
C'est de ça que j'ai
la
parlé.
La refondation, est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce qu'il faut refonder?
C'est de ça, que,
malien,
c'est de ça que j'ai parlé tantôt.
La refonte de l'homme malien.
La refondation du Mali. J'ai suivi les débats au niveau des ANR, des Assises nationales de la Refondation. Mais je suis catégorique sur ce que je suis en train de dire, je vais vous dire tout de suite.
Oui.
C'est que la refondation du Mali se fera avec l'islam ou ne se fera jamais. Si vous pensez, si quelqu'un doute de ce que je dis, qu'on interroge le pays profond, les Maliens, qui vivent dans un monde, dans un univers qui est parallèle à l'univers dans lequel vit notre élite intellectuelle formée à l'école laïque. Il faut que ce fossé qui sépare ces deux univers-là, qu'il soit comblé, pour que nos représentants, les représentants de notre pays, les dirigeants de notre pays, les responsables de notre pays, pour qu'ils puisent leur force dans nos réalités culturelles et nos réalités sociétales. C'est pourquoi c'est la crise de valeurs qui a engendré la crise politique, la crise économique, la crise sociale, la crise sécurité et tout le reste.
Okay.
Pour moi, le fondement, le soubassement de notre refondation, Ce sont les valeurs spirituelles et morales de notre société que nous devons réhabiliter. Okay. Et il est important que notre élite intellectuelle s'y reconnaisse et se convainque de cela.
Donc pour vous, la refondation passe par l'islam,
ou ne se fera jamais.
Ou ne se fera jamais. Donc là, il faut carrément aller à une grande réforme. Hein. Il faut que les gens se mettent au travail.
Une réforme profonde.
Oui.
Une réforme profonde. Et cela doit se faire dans le cadre d'un dialogue. Okay. Un dialogue où tout le monde se retrouve.
Oui.
Pour que nous puissions, comme je l'ai dit, nous entendre sur un contrat social qui nous permettra de gérer notre pays. Okay. Et aller dans le sens de notre développement et de notre vie.
D'accord. En 2002, vous avez été candidat à la présidentielle. Est-ce que, à dire que s'il y a demain une élection présidentielle, Youssouf Hassan Diallo peut être candidat?
Moi, je crois qu'on n'est pas encore à ce niveau parce que nous sommes dans une transition qui est en train de
se dérouler.
De se dérouler et de faire un travail. Donner en prélude un travail nécessaire et indispensable, en prélude évidemment à des élections que nous souhaiterons très proches, le plus tôt possible en tout cas. Mais il y a un travail à faire qui est donc la sécurisation. On ne peut pas, dans la situation actuelle du pays, parler d'élections alors que pratiquement sur le terrain, même si on doit faire des élections, même si on doit faire campagne, la situation ne se prête pas sur le plan sécuritaire et autres.
Okay.
Donc je crois que nous sommes d'abord à ce niveau,
d'accord,
avant de parler d'élection.
Pas... D'accord. Et parlons même de cette transition. Quel est votre regard justement sur la marche de la transition, par exemple?
J'ai eu déjà l'occasion d'en parler. Je crois que la transition a posé des actes très positifs, qui sont même inédits dans l'histoire de notre pays. Le fait de permettre de créer ces conditions qui nous permettent de dialoguer, et puis qui nous permettent aussi de préparer des élections où l'indépendance de notre décision politique est respectée.
Okay.
Parce que ça n'a pas été évident par le passé, notamment en 2002, lorsque j'étais candidat aux élections. Les candidats ou les gagnants des élections étaient connus d'avance, parce que préparés dans des officines qui sont même extra-régionales.
Okay.
Le fait de pouvoir aujourd'hui décider de prendre des décisions politiques qui soient souveraines, qui soient nationales, ça c'est déjà quelque chose d'extrêmement positif qu'il faut saluer, mais sur quoi il faut évidemment construire. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Pour moi, le point le plus important qui reste à faire, après ce qui est déjà fait, la libération, ou en tout cas du Mali, d'un certain nombre de contraintes qui lui étaient imposées par l'ex-puissance colonisatrice, moi je crois que c'est surtout de pouvoir affranchir notre pays de la tutelle idéologique et culturelle française.
Okay.
Pour que, après 60 ans, enfin que nous puissions nous libérer.
D'accord. On va essayer de donner la parole aux téléspectateurs dans la dernière rubrique de l'émission, rubrique question directe, le générique. C'était là la rubrique, le générique, rubrique question directe. Donc nous allons donner la parole aux téléspectateurs. Si vous voulez rentrer en direct dans cette émission, nous sommes avec Cheikh Youssouf Hassan Diallo, imam. Nous parlons de démocratie et laïcité. Si vous voulez poser une question, faire une petite contribution, le numéro pour rentrer en direct dans l'émission s'affiche sur votre écran, le 65 65 50 50. Vous pouvez tout simplement vous éloigner de votre poste pour une meilleure écoute téléphonique ici dans le studio. Mais on va continuer avant d'avoir les premiers intervenants au téléphone. On va continuer avec l'imam Cheikh Youssouf Hassan Diallo. Est-ce qu'aujourd'hui... Oui. Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, vous êtes en direct hein, sur Gulliba TV News. Votre nom?
Allô?
Oui, éloignez-vous de votre poste et puis posez votre question.
Oui, je suis très éloigné de mon poste.
Oui, parlez plus fort pour qu'on puisse mieux vous entendre.
Oui, ma question est la suivante. Je viens de suivre l'exposé de M. Gallo sur la laïcité.
Oui.
Mais j'avoue que je suis un peu perplexe parce que la définition que nous on comprend de la laïcité est justement opposée à ce qu'il dit tous.
Oui.
Et quand on parle de laïcité, pour nous, la laïcité, c'est justement cette liberté pour chacun de choisir sa religion. Alors que dans son explication, la laïcité va totalement à l'encontre de cela. Maintenant, quel rôle il peut jouer par rapport à la clarification d'une position défendue par un gouvernement? Et il a certainement suivi des éminents spécialistes qui ont parlé de la laïcité qui est dans la Constitution depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Est-ce que cela veut dire que depuis l'indépendance, tout le monde s'est trompé sur la laïcité?
Oui.
C'est ça ma question.
Ok, mais c'est, merci. C'est quel nom? Oui, il est parti, il pose la question, il dit qu'il vous a suivi, hein, et puis bon, il dit que vraiment qu'il reste perplexe. Est-ce qu'il se pose la question de l'indépendance à nos jours? Est-ce que tout le monde s'est trompé sur la définition de la laïcité? Parce que la laïcité a toujours été là.
Bon, je ne sais pas si tout le monde s'est trompé.
Oui. Bonsoir. Excusez. Bonsoir. Oui, allez-y. Allez, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, vous êtes en direct hein, sur Gyoliba TV News.
Ok, d'accord. Je vais poser une question à lui-même.
Oui, allez-y.
Sur la laïcité, qu'est-ce que l'on a tout à voir avec la démocratie en tant que imam de la situation où il y a une carte mine. Ça veut dire que tout ça, il y a une carte mine à la situation, mais il y a une culture qui l'a dit.
On vous entend mal, hein?
Donc, je dis.
Oui.
La Sourate
Kulia Yuhel Kafiruna, oui.
Oui, la Sourate, nous connaissons ça, nous connaissons ça.
Oui.
À la fin, c'est beaucoup de dînes qu'on les dit, beaucoup de dînes qu'on
les dit. Dînes qu'on les dit, oui.
Oui.
Dînes qu'on les dit.
Oui.
Est-ce que ce n'est pas la laïcité?
Est-ce que ce n'est pas la laïcité?
Ah, d'accord, oui. J'ai okay. Compris.
Ok.
Bon, vous me permettez de répondre à la première question d'abord.
Ok, d'accord, merci beaucoup.
Première question, quand vous me demandez est-ce que les gens se sont trompés depuis l'indépendance?
Oui.
C'est à vous de juger. Moi, je ne vais pas vous dire qu'ils se sont trompés ou pas, mais je suis sûr d'une chose, c'est que la laïcité est venue poser des actes qui vont à l'encontre de la religion. J'ai donné déjà un exemple. Ce sont ces gardes-cours, ces sentinelles qui sont devant nos écoles et nos universités qui nous empêchent d'enseigner la religion, l'islam à nos enfants. Ça me suffit comme preuve. Maintenant, si vous voulez que dire autre chose, c'est à vous. En tout cas, c'est à vous de voir ça, c'est un exemple concret. Je peux ajouter d'autres exemples. J'ai déjà parlé de 30 milliards de devises que nous envoyons à l'extérieur pour commander des liqueurs pour venir distribuer à nos enfants. C'est la laïcité qui nous donne ça. Et ça continue. L'alcool que nous produisons et que nous vendons à nos enfants, la cigarette que nous vendons à nos enfants, et tout le reste. Moi, c'est les faits qui importent chez moi. Et je sais que la laïcité, c'est une émanation d'une philosophie athée, qui est le mouvement, la philosophie humaniste. C'est ce qui a triomphé en France en 1789, et c'est ce qui a été appliqué en France et qui nous a été transmis à travers la colonisation. Et la première victime de la laïcité, c'est précisément la France. J'ai parlé l'autre jour des dégâts qui ont été commis par la laïcité en France, notamment les 200 000 tentatives de suicide, notamment les 225 000 interruptions volontaires de grossesse, donc d'avortement en France, notamment l'immoralité, notamment le mariage pour tous, tout ça c'est la laïcité. Si c'est ce que vous voulez que nous on applique chez nous, c'est ça la laïcité, eh bien, donc voilà, faites la comparaison.
Ok, et le deuxième intervenant qui
Deuxième question, vous parlez de Sourate Kulia Yuhel Al-Kafirun qui dit que chacun a sa religion, est-ce que ça c'est pas la laïcité?
Oui.
Justement, j'ai dit que la laïcité, il y a deux choses, il faut pas confondre deux choses. Ne confondons pas la liberté du culte, c'est important si on veut faire la part des choses. Ne confondons pas la liberté du culte qui est garantie par l'islam, pas seulement dans cette sourate, mais dans plusieurs versets coraniques que je peux vous citer. Mais ne confondons pas donc la liberté du culte, qui est une obligation religieuse en islam, et on peut vous donner l'illustration. Ne confondons pas cela à la laïcité qui nous interdit de construire un citoyen avec Dieu, avec la religion. Ce n'est pas la même chose. Ne confondons pas ces deux notions. Si c'est la liberté de culte, oui, la liberté de culte existe en islam, défendue par l'islam et pratiquée par l'islam. Je peux vous donner une illustration puisque vous posez la question. Premièrement, il y a Kulia Ayyuhal Kafirun que vous venez de citer. La fin dit Lakum dinukum waliyadin, vous avez votre religion et j'ai la mienne. Mais il y a un autre verset qui est plus explicite, qui se trouve dans Sourate Yunus. Ce verset nous dit وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُسْلِمِينَ. Ici, dans ce verset, Dieu s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il dit au prophète, sache que si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de tous les humains des croyants. Est-ce toi, Mohammed, toi, mon prophète, est-ce toi qui vas obliger les gens à devenir musulmans? Tu ne peux pas, parce que la foi m'appartient, c'est une lumière que je mets dans le cœur des gens. Toi, c'est ton objet, ta mission, c'est de transmettre le message, mais tu ne peux pas forcer les gens à être des croyants. Ça, c'est Dieu qui l'a dit à son prophète, pour dire qu'en islam, il n'y a pas de contrainte. Il y a d'autres versets qui disent « La ikraha fiddin, la ikraha fiddin, qad tabayyana rushtu min al-ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa. » Qu'est-ce que le verset dit? La ikraha fiddin, il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Car la bonne voie, la voie droite, se distingue de l'égarement. C'est ce que le verset dit. Donc, en islam, il n'y a pas de problème par rapport à la liberté du culte. Et je vais vous donner une illustration pratique. Les musulmans ont régné sur le monde depuis l'Andalousie, c'est-à-dire depuis la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal, jusqu'aux frontières de la Chine pendant plusieurs siècles. Après, aujourd'hui, c'est ces zones-là que les musulmans ont, sur lesquelles l'islam a régné. Vous avez encore des chrétiens, vous avez des juifs, vous avez toutes les religions, vous avez les synagogues, vous avez les églises en Égypte, en Syrie, en Irak, au Liban, en Palestine, en Turquie. Partout où les musulmans ont passé, ces gens-là sont restés, ils sont protégés par l'État islamique. Leur religion est protégée, leurs lieux de culte sont protégés, leurs intérêts sont protégés. L'histoire est là pour nous le dire. Et comparer cela à deux autres exemples que je vais vous donner, puisque c'est vous qui avez demandé la comparaison. L'autre exemple, c'est quoi? Lorsqu'il y a eu la Reconquista en Espagne, c'est-à-dire quand les Espagnols ont décidé de reprendre la péninsule arabique, la péninsule ibérique, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait la Reconquista, c'est-à-dire la reconquête. Et quand ils ont eu le dessus, avant cela, il y avait dans le royaume, quand c'était le califat Omeyyade de Cordoue, en Espagne, qui dirigeait, en ce moment-là, les chrétiens, les juifs, les musulmans vivaient en bonne intelligence dans ce pays. Mais quand il y a eu la Reconquista, les nouvelles autorités chrétiennes, tenez-vous bien, c'est la reine Isabella d'Espagne et le roi Ferdinand du Portugal qui se sont coalisés pour la Reconquista. Ils ont donné des délais aux musulmans et aux juifs pour leur dire de se convertir, soit de se convertir au christianisme ou de sortir de la péninsule ibérique. Les musulmans étaient obligés de sortir, ceux qui ne voulaient pas sont restés, ils ont changé de religion, c'était la même chose pour les juifs également. Et je vais vous donner justement un témoignage extrêmement important pour l'émission, si vous permettez.
Allez-y.
Cette information a été documentée. Vous avez entendu parler certainement de Abba Eban, qui a été ministre des Affaires étrangères d'Israël. Il a été ministre des Affaires étrangères d'Israël lorsque Golda Meir était Premier ministre. Dans ses mémoires, il a dit, parce que lui, il est juif séfarade, les juifs séfarades, ce sont les juifs d'Espagne. Dans ses mémoires, il a dit que ses grands-parents, ses aïeuls qui étaient en Espagne, quand les musulmans étaient là, au temps de l'Empire Omeyyade de Cordoue, ils vivaient en sécurité. Mais quand les chrétiens avaient pris le pouvoir, ils ont forcé ses parents à quitter la péninsule. Allez regarder les mémoires de Abba Eban, ancien ministre des Affaires étrangères d'Israël. Lui, il est juif, il a été victime justement de cette intolérance de cet État chrétien. Donc ça, c'est pour vous dire que le problème de la liberté de culte ne s'est jamais posé en islam. Ce sont les autres qui sont intolérants vis-à-vis des musulmans. Vous connaissez aujourd'hui, ces dernières années, avec Macron, 900 mosquées et centres islamiques musulmans ont été fermés en France. 900. Donc, ce sont les autres qui sont intolérants vis-à-vis des musulmans. Ce n'est pas le contraire. Il faut qu'on s'entende là-dessus.
Oui, d'accord. Maintenant, parlons, vous avez parlé du djihad. Hein, le djihad qui, en arabe, qui veut dire l'effort. Hein, ça dépend, peut-être un effort intellectuel, un effort religieux, un effort même économique. Par exemple, ce qui, aujourd'hui, au nom du djihad, qui tue, qui terrorise, vous avez dit que, bon, que la presse française a caricaturé un peu. Et est-ce qu'ici aussi, on peut parler de caricature ?
Exactement, on parle de caricature, parce que le djihad, il faut connaître son sens en islam. C'est tout effort qu'il est demandé de faire pour lutter contre Shaitan, pour lutter contre le démon. Et le démon est peut-être à plusieurs niveaux, partout où il est. Le premier démon, la première force négative contre laquelle le djihad nous demande, ou l'islam nous demande à travers le djihad de se battre, ce sont les imperfections de notre être, de notre ego. C'est ce qu'il faut pour se perfectionner. Ça, c'est le premier djihad. C'est pourquoi le prophète, alayhi salatu salam, on lui accorde ce hadith en disant que quand ils étaient venus d'une guerre, d'une bataille contre l'ennemi, il était arrivé, il a dit aux gens, voilà, nous avons quitté le petit djihad pour venir au grand djihad. On lui a dit, quel est le grand djihad? Il a dit, le djihad nafs, c'est-à-dire se battre contre les impulsions de son âme. Oui. Donc tout effort qui permet à un être humain de combattre le démon. Le démon, il peut être matérialisé, il peut être représenté dans toutes choses. Ça peut être la pauvreté. Omar ibn Khattab a dit que si la pauvreté était un être humain, j'allais le mettre à mort, j'allais le tuer, n'est-ce pas? Donc tous les ennemis de l'être humain, tout ennemi de l'être humain, un ennemi visible ou invisible, qui vient vous agresser, il vous est demandé de vous battre, de ne pas baisser les bras et de vous battre pour vous libérer de cet ennemi-là. Okay. C'est ça le sens premier du djihad, dont notamment les ennemis d'un État. Par exemple, ici au Mali, aujourd'hui, nous sommes agressés. Les agresseurs qui viennent, ils normalement, dans un pays où l'islam est la religion d'État, on demande aux gens d'aller se battre au nom de Dieu pour aller combattre cet ennemi. Okay. Et les gens qui meurent dans ce genre de bataille, ce sont des martyrs qui vont au paradis. Et je parle théologie. Okay. Voyez-vous?
D'accord. Mais est-ce que vous êtes en train de soutenir, par exemple, ceux qui, au nom du djihad, aujourd'hui, si je parle des terroristes, voilà, est-ce que vous êtes en train de légitimer un peu leur combat?
Non, je ne légitime pas. Je suis très, très loin de légitimer leur combat et de les reconnaître. Okay. J'ai eu l'occasion d'en parler sur d'autres chaînes de télévision. Oui. J'avais dit que les gens qui, aujourd'hui, prennent les armes au nom de l'islam, qui disent Allah Akbar, qui posent des actes, qui égorgent les gens, En criant Allahu Akbar, des gens qui sont instrumentalisés par des forces extra-régionales, les services de renseignement de forces extra-régionales, pour deux raisons. Premièrement, pour discréditer l'islam. Parce que c'est des gens qui viennent tuer, égorger en disant Allahu Akbar. Les gens vont penser, les gens qui ne savent pas, vont penser que ça, ce sont des gens qui le font au nom de l'islam. Donc, ils auront une idée négative de l'islam, donc ça discrédite l'islam. Okay. On ne peut pas discréditer l'islam parce que ça vient de Dieu. Okay. Le deuxième objectif, c'est de nous déposséder de nos terres. Parce que ces gens-là viennent terroriser nos populations, des milliers, sinon des millions de personnes qui sont déplacées. Dans le monde musulman aujourd'hui, depuis le Moyen-Orient, où ça a été créé, Daesh, qui est l'organisation de l'État islamique au Levant et en Irak, a été créé là-bas, et on connaît les affres ou la misère que cela a créé aux millions de musulmans qui ont été déplacés, qui vivent dans des camps de réfugiés et autres. Et ça continue depuis donc le Moyen-Orient jusqu'au Nigeria. Oui. C'est la même chose. Ça ne peut pas venir de l'islam. Ce n'est pas possible. Des gens qui viennent égorger des imams ou des muezzins. Comment peut-on comprendre que ces gens-là se battent au nom de l'islam ou que on a eu des cas où c'est des gens qui ne savent même pas lire la Fatiha. Parfois, ce sont des non-musulmans. Oui. Ça a été documenté. Oui. Voilà.
Donc, pour vous, le terrorisme, c'est une fabrique, tout ça, pour discréditer l'islam. C'est votre position. C'est une fabrique occidentale, par exemple.
Pour les deux raisons que je vous ai fixées, que je vous ai citées. Okay. Je ne vais pas vous donner des précisions par rapport aux forces extra. Ce qui est sûr, c'est que c'est le cas. Okay. C'est le cas aujourd'hui, même au Mali. La preuve, le Mali aujourd'hui a demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité pour examiner des cas de renfort et de soutien qui ont été apportés par des forces extra-régionales à ces gens-là qui nous combattent. Ça ne vient pas de moi, ça vient de l'État malien. Et jusqu'à présent, le Conseil de sécurité ne s'est pas réuni. Il n'y a pas de mille interrogations par rapport à cela. Donc ne me dites pas de dire que c'était le pays occidental ou pas. C'est des choses que les gens suivent.
Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous parlez d'enseigner Dieu à nos enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les imams, est-ce que votre rôle, votre contribution pour que les enfants puissent apprendre, puissent connaître, puissent avoir une connexion avec Dieu?
Le problème, ce n'est pas qu'un imam vient enseigner. Le problème est à un autre niveau. Ce que nous demandons, oui, nous voulons que notre État, qui a été mis en place par nous-mêmes, nous les musulmans, okay, et nos co-religionnaires, nos compatriotes non-musulmans, que cet État-là s'occupe de, comme il gère notre manger et notre boire, c'est-à-dire notre côté matériel, qu'il gère également notre côté spirituel, qu'il nous aide, notre religion est plus importante, la religion est plus importante, c'est-à-dire notre spiritualité, notre rapport avec Dieu, si seulement les gens savaient, est plus important que notre rapport au manger et au boire. Parce que nous mangeons 3 fois par jour et nous prions 5 fois par jour.
Okay.
Voilà, donc nous demandons à notre État de prendre en charge l'éducation des enfants. Parce que l'école, c'est nous qui finançons l'école, nous les contribuables musulmans.
Okay.
Que c'est nous qui finançons notre école. Donc c'est la moindre des choses qu'on enseigne, notre identité culturelle, à notre école qui nous appartient.
Mais il y a l'école coranique au Mali, souvent dès le bas âge, les enfants apprennent souvent le Coran, les sourates, puisque vous parlez de prière.
Je vais vous dire,
oui,
les écoles coraniques et les écoles franco-arabes qui ont été créées par le peuple malien musulman, croyant, pour organiser la résistance au système laïque. Ça, c'est privé, ça vient du privé. Nous, nous voulons que notre État, le public, notre État qui est le nôtre,
okay,
que nous avons mis en place, qui n'est pas un État français, il est État malien. Donc, il gère des musulmans à 98% de la population, que cet État-là s'occupe de la gestion de notre spiritualité,
okay,
protège notre foi, parce que cette protection-là, c'est notre force. Notre spiritualité, c'est notre force. En nous adossant à Dieu, nous adossons à notre force. C'est ce que les gens doivent comprendre. C'est ce que l'élite intellectuelle formée dans ces écoles-là, formée en Occident, doivent comprendre. Ne nous mettez pas dans les mêmes paradigmes que ce qui se passe ailleurs, sous d'autres cieux.
Okay.
Tenez compte de nos réalités, si vous voulez que votre gestion de notre société soit couronnée de succès.
Ok, nous sommes à la fin de l'émission. Si vous avez un message pour les Maliennes et les Maliens qui nous regardent ce soir, c'est quoi le message?
Le message que j'adresse au peuple malien dans son ensemble, y compris évidemment nos dirigeants, dans ce mois de béni de Ramadan,
oui,
je leur demande de faire en sorte que nous puissions nous réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala, que nous puissions bénéficier des lumières et des bénédictions du mois sacré de Ramadan. Prenons notre courage à deux mains et évacuons la laïcité de notre constitution. Réconcilions-nous avec Allah subhanahu wa ta'ala et vous verrez la suite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ok, merci. D'accord, merci Imam Cheikh Youssouf Hassan Diallo. Est-ce que vous seriez prêt, peut-être après le Ramadan ou dans les jours à venir, d'être dans un débat contradictoire sur cette question, par exemple, avec un intellectuel malien ou un religieux malien sur la question?
C'est possible, ça dépend
de l'interlocuteur. Okay.
Je veux bien.
Quel profil?
Je veux bien débattre avec quelqu'un qui a la tête sur les épaules.
Okay.
Voilà.
D'accord. Okay.
C'est ça le profil.
D'accord. On va chercher ça. Hein? On va chercher ça. Donc, si quelqu'un souhaiterait peut-être avoir un débat contradictoire avec Cheikh Youssouf Hassan Diallo, il peut prendre attache avec nous. Hein? Nous allons regarder le profil et organiser certainement le débat pour une meilleure compréhension de la question. Merci, Imam. C'était un plaisir de partager cet entretien avec vous. Merci.
Le plaisir de partager.
Venez ici quand vous le voulez. Merci et bonne suite de Ramadan.
C'est moi qui vous remercie.
Merci.
Salam alaikum.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours au renouvelé au programme de Djoliba TV News. Clin d'œil particulier ce soir à un téléspectateur fidèle de Djoliba TV News, à Ségou, Mohamed Mahmoud Barbouchi, Dinounou, et puis la cousine Khadija Guindo à Ségou. Au revoir et merci de rester fidèle au programme de Djoliba TV News. Merci, Imam.
Liberté.